Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi, 90 minutes info, le décryptage de l'actualité du moment, c'est dans un tout petit instant, le débat va débuter juste après, le rappel des principaux titres avec Adrien Spiteri.
La visite de Xi Jinping continue en Russie, des discussions avec Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine sont au programme. Le président chinois diffère de sa relation stratégique avec le Kremlin, une priorité. À noter que le géant russe Gazprom annonce aujourd'hui des livraisons records à la Chine. Fumio Kishida est en Ukraine. Après son arrivée à Kiev, le premier ministre japonais s'est rendu à Boutcha, ville martyre où des crimes de guerre auraient été commis par l'armée russe. Une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévue. Et puis 45 000 bénévoles seront recrutés pour les Jeux Olympiques 2024. Du 22 mars au 3 mai, un portail de candidature sera ouvert. Pour candidater, il faut avoir 18 ans, parler le français ou l'anglais et être disponible au moins 10 jours durant la compétition. Les volontaires auront un repas payé par jour et seront défrayés de leur transport.
Et à la une, cette question. Où va le pays? Le rejet des deux motions de censure nous a fait entrer dans une séquence inconnue. Hier, les blocages peuvent-ils perdurer? Et puis, quid des manifestations spontanées et de la colère grondante? Écoutez.
Plus une ville n'échappe aujourd'hui à ces manifestations, il faut le dire, c'est assez violent, c'est ces manifestations violentes. On était habitués dans les grandes villes, mais aujourd'hui, vous allez dans des villes de plus petite importance, sont aussi... touché par cette manifestation violente.
Emmanuel Macron consulte, certes, mais que peut-il encore faire pour ne pas entraîner son quinquennat dans une forme d'immobilisme alors qu'il lui reste encore 4 ans? Enfin, que feront les oppositions désormais? Là aussi, écoutez.
Ce débat a fait apparaître des différences, des divergences. Eh bien, nous avons le devoir de le surmonter.
Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ce texte tombe dans les oubliettes de l'histoire, soit mis à la poubelle en ayant une censure globale.
Et pour m'accompagner aujourd'hui pour ce débat, j'accueille Jean Messia. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Gauthier Lebray du service politique est là également.
Bonjour, Nelly.
Ainsi que François Patria. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Renaissance au Sénat. Soudain, donc, l'embrasement a perduré. Les esprits se sont un peu plus tendus encore hier soir avec des manifestations spontanées, sauvages, non déclarées. Un nombre important d'interpellations, des policiers qui sont déjà exsangues et qui redoutent évidemment de revivre la séquence gilets jaunes où ils avaient été envoyés au front semaine après semaine. Regardons ce qui s'est passé pour commencer dans les rues de Paris. C'était hier soir, le résumé, Somaïa Labidi.
Une soirée sous tension dans la capitale. Et quelques instants seulement après le rejet des motions de censure à l'Assemblée, et des groupes de plusieurs centaines de personnes, plutôt des jeunes, se forment et convergent dans différents points, au Louvre, à Bastille ou encore à Saint-Lazare. Des mouvements sporadiques qui compliquent le travail des forces de l'ordre, qui tentent de dégager les rues où des feux de poubelle ont été allumés pour permettre l'intervention des pompiers. Un mode d'action que justifie ce jeune manifestant.
Nous, en tout cas le peuple et nous les jeunes, moi je parle en tant que jeune mais je m'allie aussi à tout le monde, eh ben on est obligé d'en arriver là pour se faire entendre. Parfois, il faut crier. Parfois, il faut crier pour se faire entendre, c'est malheureux.
Une soirée de tension qui aura donc contraint les forces de l'ordre à de multiples interventions. Au total, ce sont 234 personnes qui ont été interpellées ce lundi dans les rues de Paris.
Et puisqu'on parle de maintien de l'ordre, écoutez ce que nous en disait le porte-parole d'unité SGP Police.
Ça fait quand même 3-4 nuits qu'on commence à basculer un peu plus sur des violences urbaines, ce qu'on appelle. Plus habituellement, c'est ce qu'on voit surtout sur les banlieues. Et du coup, là, vous faites face à plusieurs groupes. Au début, vous avez à peu près 500 personnes. Ensuite, ils se divisent en plusieurs groupes de 10 à 20 personnes. Et là, du coup, ça va dans les petites ruelles, ça va dans les... ça monte des barricades improvisées, ça brûle des poubelles et du coup, vous êtes obligé d'intervenir pour préserver l'intégrité physique et puis éviter les dégradations. Et du coup, là, on bascule vraiment plus dans la violence urbaine et on est obligé même voir de faire appel aux brigades anticriminalité comme ça a été le cas hier soir.
François Patria, ce policier nous dit « on a basculé dans toute autre chose ». Il évoque, même pas à demi-mot maintenant, le terme de « violence urbaine ». Ça vous inquiète ? Vous avez peur aujourd'hui ? Et qui est à l'origine de cette situation devenue incontrôlable ?
Bon, alors il y a deux questions. D'abord, est-ce que ça m'inquiète ? Je suis vigilant. Je regarde ce qui se passe. Effectivement, dans le département où j'habite, hier, le préfet m'a fait savoir qu'il y avait quelques centaines de personnes à comparer des 11 000 personnes qui défilaient il y a un mois. Donc ce ne sont plus les syndicalistes à qui je vous rends hommage. Les syndicalistes aujourd'hui tiennent leurs troupes, tiennent leur mandant et organiser des manifestations pacifiques. Les gens qui manifestent ce soir n'ont rien à voir avec la réforme des retraites. Rien à voir. Il s'agit d'éléments violents, souvent l'extrême gauche qui manifeste à Dijon comme tel, qui jette des cocktails sur les policiers. Demande simplement, je crois que le ministre de l'Intérieur l'a compris, le président l'a compris aussi. Le problème, c'est de maintenir l'ordre aujourd'hui, rétablir l'ordre. Donc, je suis vigilant, je dis que tout peut évoluer, mais je ne suis pas par nature inquiet. La responsabilité. De la responsabilité aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là pour juger de la responsabilité. Je pense que le gouvernement, dans ses choix, que je soutiens par ailleurs, a eu raison de l'attitude qu'il a eue. Il a eu raison d'être à la fois ferme, il a eu raison de dialoguer, il a eu raison de négocier jusqu'au bout, il a eu raison même de céder. On a cédé beaucoup de choses à l'opposition qu'il demandait, y compris aux syndicats. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir qui est responsable. Le problème de savoir, c'est est-ce que maintenant que la loi est votée, que la loi elle sera promulguée à l'issue de ce que dira le Conseil constitutionnel. Dans ce contexte-là, nous devons maintenant résolument nous tourner vers l'avenir et savoir comment on peut continuer à réformer le pays.
Alors on reviendra évidemment à ce qui va se jouer sur le plan politique et sur le plan de nos institutions démocratiques, mais j'aimerais quand même, Jean Messia, qu'on s'attelle à ces images. Il parle de nombre, effectivement, en termes de volume de population, parce que précisément, ce ne sont pas des manifestations déclarées, il y a moins de monde dans les rues, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un monstre qu'on aurait créé et qui commence à échapper un peu à tout le monde quand même. C'est un peu là-dessus que je voulais vous faire réagir.
Il y a quelque chose, si vous voulez, que personne ne souligne dans ce qui se passe et dans ce à quoi nous avons assisté depuis hier et même dans les jours précédents le vote de la motion de censure, c'est que pour la première fois, on a effectivement des violences urbaines à Paris, mais sans qu'elles ne soient adossées à de grandes manifestations. C'est-à-dire que nous, jusqu'à présent, nous avions l'habitude, par exemple, de cortèges de gilets jaunes, et puis venaient s'infiltrer sur ces cortèges des éléments radicaux qui, effectivement, mettaient le bazar, détruisaient, vandalisaient, etc. Dans les manifestations classiques également. Là, pour la première fois, on a une éruption de violences volcaniques spontanées qui ne sont pas adossés à un mouvement social. Et c'est partout. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est localisé à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille. C'est dans beaucoup de villes françaises. Donc il est impossible de fermer le banc en disant « bon, ben voilà, c'est quelques dizaines d'individus, c'est pas très grave ». Non, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que la colère qui s'exprime spontanément, sans mots d'ordre syndicaux, sans gilet jaunisation du mouvement, mais juste une violence à l'état pur, sans requête sociale, sans être adossée à des manifestations sociales, vient dire quelque chose. Je pense que ce à quoi nous assistons depuis plusieurs jours dans les rues de la capitale et ailleurs, ce n'est que le pic de l'iceberg, le pic incandescent de l'iceberg de haine et de colère qui bout dans le pays et qui trouve, par ces méthodes évidemment condamnables, il ne s'agit pas de les justifier, mais qui trouve dans ces méthodes un moyen d'expression. Vous savez, l'histoire, elle ne se fait pas par les majorités, hein. Ce sont les minorités qui font l'histoire. Donc moi, quand on me dit « les explosions de violence sont minoritaires », ce n'est pas un propos qui est de nature à me rassurer. Parce qu'en général, ce ne sont pas...
d'éléments minoritaires.
Oui, mais c'est...
d'éléments minoritaires.
Dans l'histoire, ce n'est pas, pas les majorités qui font l'histoire. Les majorités sont souvent silencieuses, et ce sont des minorités actives qui font basculer les choses. J'espère que les choses vont se calmer, mais en tout cas, ce n'est pas parti pour.
Mais voilà, même question, à qui on incombe la responsabilité ?
C'est ça la vraie question. Je pense, si vous voulez, qu'il y a quand même une forme de désinvolture d'Emmanuel Macron. Comment on peut expliquer que le Mozart de la communication, ceux qui n'ont que le mot pédagogie à la bouche, ne pipent mot pendant des semaines, le président de la République en l'occurrence, n'explique pas, ne prépare pas le pays à l'usage du 49-3 dans un contexte qui quand même est un contexte politico-économico-social qui est quand même inflammable, on eût aimé que le président s'exprimât à tout le moins pour préparer le pays au passage en force. Le passage en force au Parlement eût été moins douloureux si Emmanuel Macron avait pris la peine de parler. Comment est-ce qu'on peut parler de pédagogie, de dialogue, quand le président est à faune depuis des semaines et qu'il ne s'exprime qu'à travers une dépêche AFP, le comble de la désinvolture, et où demain, il dit qu'il va parler, il parle à 13h. Donc il parle à 13h au moment où tout le monde bosse. C'est-à-dire que tous ceux qui sont concernés par la retraite, en fait, ils ne vont pas l'écouter. Donc, excusez-moi, il y a dans la communication et la pédagogie du gouvernement exactement ce qu'il y a sur le modèle de la finance. On a dit le Mozart de la finance, on a 3 000 milliards de dettes. Le Mozart de la communication, on a des scènes quasi insurrectionnelles dans la rue. Alors, pardonnez-moi, ça fait beaucoup.
On va rester sur ce qui s'est passé, pas simplement, je vous le rappelais tout à l'heure, à Paris, mais également très très largement en région. D'ailleurs, on a compilé toutes ces images, vous voyez cette mosaïque qui donne un petit peu... un panorama de ce qui s'est déroulé hier en plusieurs points. On pourrait citer Rennes, on pourrait citer Bordeaux. Regardez, le résumé est signé Thomas Bonnet.
Aux quatre coins du pays, les mêmes images. Des feux de poubelle et des barricades, ici à Rennes. Ils étaient entre 300 et 500 à manifester selon la préfecture. Des rassemblements qui ont nécessité l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre. À Lille aussi, où la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule de quelques centaines de personnes. Partout, la même colère et des tensions. Les mêmes slogans ont ainsi retenti de Bordeaux.
La retraite à 60 ans.
À Strasbourg, où ils étaient plus de 1000 sur la place Kléber.
Qui sème le vent, récolte la tempête, hein. Je veux dire, voilà. Il faut s'y attendre.
Visiblement, ils ne nous entendent pas. Ils souhaitent passer en force, donc nous aussi, on va passer en force.
Face à face tendue, ici, à Clermont-Ferrand, à proximité de la préfecture. Ces rues du centre-ville lyonnais témoignent aussi des dégradations commises lors des manifestations. Des rassemblements dans de nombreuses villes qui ont conduit à de multiples interpellations. Plusieurs policiers ont également été blessés.
Gauthier, ces violences, certes, sont sporadiques et relativement maîtrisées quand même. Il faut savoir raison garder aussi pour l'instant. Mais elles disent quelque chose quand même de l'état d'esprit qui règne en ce moment. Qu'est-ce qu'elles traduisent au fond de cette colère qui est en train de grossir et d'échapper, y compris aux syndicats, parce qu'on pourra revenir au rôle de l'intersyndicale tout à l'heure.
Les syndicats, depuis l'usage du 49-3, ont perdu le contrôle d'une partie des mobilisations. Les mobilisations spontanées, effectivement, se sont complètement émancipées des syndicats. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, selon plusieurs observateurs, les personnes qui commettent des violences, qui vont brûler des poubelles, sont les idiots utiles du pouvoir. Parce qu'Emmanuel Macron peut répondre avec la carte de l'autorité. On verra ce qu'il dira demain, mais il peut le dire, c'est moi ou le chaos. On sait qu'il a fait deux campagnes présidentielles sur ce thème. Après, ses opposants lui répondent que depuis qu'il est président, c'est pas l'ordre qui règne, mais le désordre. Il y a eu effectivement l'épisode des Gilets jaunes. Mais depuis le début des contestations, l'exécutif avait fait un peu le pari cynique du pourrissement, en imaginant qu'un pourrissement comme ce à quoi on peut assister ici et là peut faire retourner l'opinion, non pas sur la réforme des retraites. La bataille de l'opinion sur la réforme des retraites, elle est perdue par l'exécutif. 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme. C'est très stable depuis le début des
mobilisations. Mais sur le retour à la normale.
Mais voilà, l'opinion peut être lassée des blocages, lassée des violences et ne plus faire seulement porter la responsabilité au gouvernement, mais aussi à ceux qui commettent ces blocages et ces violences.
J'aimerais qu'on dise un mot aussi de l'envoi de la CRS 8, puisqu'on parlait de maintien de l'ordre tout à l'heure. C'est cette force d'intervention qui est spécialisée dans les violences urbaines, qu'évoquait tout à l'heure ce syndicaliste policier. À Rennes, par exemple, elle a été utilisée. Il y a une nouvelle doctrine d'intervention de facto qui est dictée par la rue. On n'est plus du tout dans le maintien de l'ordre qu'on a pu voir dans les manifestations, parce qu'il y avait aussi le cordon sanitaire qui était assuré par les syndicats. Et là aussi, on peut aller vers des face-à-face beaucoup plus tendues, Jean, à cause précisément de cet emploi.
C'est-à-dire que là, vous voyez bien que les violences sont totalement erratiques. C'est ce que je disais en exergue à mon propos. C'est-à-dire qu'on n'a pas des violences localisées, attendues, si vous voulez. C'est des éruptions, ça et là, qui nécessitent une nécessité, une flexibilité de l'usage des forces qui soit particulièrement accentuée. C'est pas comme dans une manifestation où on dit, où c'est déclaré à l'avance, où on sait qu'il va y avoir des éléments violents et où les forces de l'ordre peuvent préparer les rues, avoir le plan de la zone de manifestation pour se préparer.
Là, on joue au chat et à la souris, hein.
Oui, là, oui, exactement. Là, on a des voilà, c'est exactement, c'est une espèce de racaillisation, si vous voulez, des violences urbaines qui fait que les policiers sont bien en peine, si vous voulez, de réagir. Ils n'interviennent qu'après coup. Mais je voulais juste en profiter pour dire un mot, c'est que. J'écoutais un petit peu les matinales ce matin des différentes radios et télévisions, et je trouve que le ton est quand même assez badin s'agissant de ces violences. En tout cas, il n'y a pas de dénonciation frontale et verbale et véhémente des manifestations qui le sont tout autant. J'espère que si la France connaît des épisodes comme ça après le vote d'une loi sur l'immigration où des patriotes et des nationaux descendront pour se plaindre de la politique migratoire du gouvernement, j'espère que les médias et la classe politique auront les yeux de chimène qu'ils ont pour ces manifestations qu'ils considèrent finalement comme quelque part romantiques ou cool parce que ça vient de l'extrême gauche et guévariste d'une certaine façon.
Ça risque de ne pas être pour demain.
Non, ça risque de pas être pour
demain. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur le calendrier qui va être sans doute largement modifié avec vous et avec Gauthier qui a quelques infos sans doute à ce sujet. Un mot sur ce qu'on nous annonce ou qu'on nous présente comme la jeunesse qui serait dans la rue. Mais de quelle jeunesse parle-t-on au juste aujourd'hui, François Patria, selon vous ?
Mais je voudrais quand même répondre un petit peu aux questions avant. Je crois que M. Messiaen revient à ses fondamentaux, le Macron bashing et les immigrés. Ça va bien, mais il y a défaut de faire court, on peut faire noble.
Heureusement.
Non, mais il y a défaut de faire court, on peut faire noble.
Hein, heureusement.
Et si on parlait un peu autrement. Aujourd'hui, vous avez compris, tout est de la faute d'Emmanuel Macron, il est responsable de tout. Et j'ai même le sentiment que dans votre fleur intérieure, vous vous réjouissiez qu'il y ait des violences.
Pas du tout.
Ça justifie votre discours et votre position.
Non, mais attendez.
Alors qu'aujourd'hui, donnez aujourd'hui raison à quelques éléments violents, sans doute par centaines, qui viennent manifester pour quoi faire, pour casser du flic, pour s'en prendre aux proches de l'ordre. Non pas au nom du 49-3, vous faites le raccourci. C'est pas au nom, c'est des gens hier, je vous assure que hier, on m'a dit, mon préfet m'a dit, ils s'en prennent directement avec des mortiers aux forces de l'ordre, avec des slogans qui n'ont rien à voir avec la réforme des retraites.
Vous attendez pour les arrêter?
Rien à forme des retraites. Mais écoutez, il y a eu 282 interpellations
tous
hier.
Libérés.
Soir. Non, pas de.
C'est normal, ils ne sont pas d'extrême droite, donc on les libère, hein. Vous le savez.
Non.
Oui. C'est
pas raccourci comme cela. Bon, deuxième chose, quand vous dites, monsieur, depuis deux ans, depuis deux mandats, Emmanuel Macron dit, moi, le chaos. Et puis, vous dites, le prince de la finance. Est-ce qu'on voudrait revenir un instant? Permettez-moi de revenir un instant, on essaie de débattre sérieusement. Qui est-ce qui a fait sortir de la zone de l'endettement excessif la France avant le Covid? C'est Emmanuel Macron. Qui est-ce qui a rétabli la confiance de la France dans les investisseurs étrangers?
C'est faux ce que vous dites. C'est la Commission européenne qui a assoupli les règles en la matière parce qu'Emmanuel Macron était un fidèle serviteur. Voilà la vérité.
Écoutez.
Qui est-ce qui a fait en sorte que le chômage reflue? Qui est-ce qui a fait en sorte aujourd'hui que nous ayons la moins grande inflation en Europe? Qui est-ce qui a fait aujourd'hui de préserver le pouvoir d'achat mieux que d'autres aujourd'hui en France? Qui est-ce qui a mis en France, qui a mis en place le bouclier énergétique pour les Français? Qui est-ce qui a mis en France que la France soit aujourd'hui le premier pays attractif pour
Pourquoi
tout le monde?
Pourquoi il retire pas la réforme?
Moi, je continue à vous dire,
je ne dis pas
qu'Emmanuel Macron est le prince de la finance, je dis qu'il est celui qui aujourd'hui, pour rétablir la position de la France financièrement, a le mieux agi. Voilà ce que
c'est faux. C'est faux, tout ce que vous dites est faux. La première chose, c'est que si...
Ah bon, c'est vrai?
Ah oui.
L'inflation est plus forte
qu'ailleurs. En matière budgétaire, quand vous dites que Emmanuel Macron a sorti la France de la procédure des déficits excessifs, ça n'est pas vrai. C'est la Commission qui a allégé...
C'est la Commission européenne
qui a allégé les conditions pour permettre à Emmanuel Macron, nouvellement élu et dont elle savait qu'il serait le fidèle laquais, en quelque sorte, elle a élargi les marges de manœuvre budgétaire pour laisser respirer Macron. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en matière de chômage, si vous prenez le chômage, toutes catégories confondues, il ne baisse pas. Parce que vous, en fait, quand vous travaillez deux heures par semaine, vous êtes considéré comme
étant au chômage. C'est pour ça qu'on a du mal à recruter aujourd'hui.
Sur l'inflation, laissez-moi finir, vous allez voir, je vais vous rendre heureux. Sur l'inflation, je suis d'accord, les boucliers tarifaires et fiscaux font qu'effectivement l'inflation est moins prononcée en France qu'elle ne l'est dans le reste de l'Europe. Ça, je vous donne crédit de cela. Mais pour combien? Combien ça a coûté? Ça a coûté des centaines, des dizaines de milliards d'euros.
Parce que le gouvernement protège les Français.
Attendez, là on parle quand même d'un texte qui a cristallisé la colère, qui a cristallisé le mécontentement. Il y a des sondages qui ont dit semaine après semaine que l'immense majorité des Français étaient opposés. Ça n'a rien à voir avec le bilan précédent d'Emmanuel Macron. C'est ce texte-là qui a cristallisé une forme de rejet.
Oui, mais vous
voulez faire une sorte de bilan comptable avec le tableau plus et moins.
C'est pas moi qui ai dit depuis.
Là, il y a un texte qui polarise l'attention.
Non, mais Monsieur Patria, quand vous dites que Emmanuel Macron a déboursé des dizaines de milliards d'euros pour protéger les Français contre l'inflation.
Fallait pas le faire.
Il fallait le faire. Bon, mais dans ce cas-là, 10 milliards de plus ou 10 milliards de moins, pourquoi mettre le pays dans un tel chaos quand on a dépensé 500 milliards pour 10 milliards? C'est de la folie. Pourquoi est-ce que vous pouvez m'expliquer?
C'est avec ces arguments-là.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer la logique de votre politique?
Ça, c'est important. Non, ça, c'est important. Non, c'est important.
Allez,
c'est
j'aimerais qu'on revienne au blocage. Le blocage des raffineries dans le sud, avec des déblocages qui ont été, vous le savez, entre-temps ordonnés. Regardez ce que ça donne. On va voir que ça n'a pas entamé, loin de là, peut-être même que ça l'a fait passer dans une dimension supérieure, la détermination des syndicats sur ces sites.
Cette réforme, personne n'en veut.
Après la réforme, maintenant ce sont les réquisitions qui font monter d'un cran la colère. Les premières ont eu lieu ce matin. Les salariés et syndicats se sont déplacés en nombre pour soutenir le personnel réquisitionné et pour montrer leur mécontentement face aux décisions du gouvernement. Comme l'explique Olivier Matteux, secrétaire général de la CGT dans les Bouches-du-Rhône.
À chaque fois qu'ils ont réquisitionné, c'est illégal. C'est illégal. C'est une façon de s'en prendre au droit de grève. Le gouvernement, avec les conneries qu'il fait depuis des semaines maintenant, il rajoute par-dessus la casse du droit de grève dans le pays. Mais jamais de la vie ça va passer, ça jamais de la vie ne se laissera faire. Il va nous rester quoi? On va devoir travailler des années de plus pour continuer à les gaver. On devrait accepter ça et en plus à coup de trique. Mais jamais il rêve.
Si le site n'est ni bloqué ni occupé, les salariés sont toujours déterminés. Une colère qui a entraîné des incidents et un face-à-face tendu, notamment avec des échanges de projectiles entre les CRS et les manifestants. Un comportement de la part des forces de l'ordre et surtout du gouvernement que déplore Fabien Cross, élu CGT Total.
Ils sont minoritaires dans ce pays, donc ils sont obligés de faire des coups d'éclat comme ça, de passer par la force, de passer par la répression policière, alors que même, avait dit, il y a quelques temps en arrière, pas si longtemps, 2-3 jours, il n'y aura pas de pénurie, il n'y aura pas de réquisition, la grève, elle ne se voit pas.
Alors qu'hier, le syndicat professionnel des entreprises pétrolières évoquait entre 5 et 8 dépôts de carburant bloqués, 45 sénateurs ont demandé ce matin la limitation du droit de grève dans les raffineries et dépôts de carburant.
Si cet épisode n'a pas eu raison de l'intersyndicale, loin de là, ça l'a renforcée. On voit qu'elle tient plus que jamais. Alors quid de cette action? Est-ce qu'elle va aller, elle aussi, dans le sens d'une radicalisation?
Alors il y a deux choses différentes. Il y a la manifestation de jeudi, organisée par l'intersyndicale. Ça sera très intéressant de voir si le 49-3 vient renforcer les cortèges, puisqu'on était sur les deux précédentes mobilisations qui commençaient à s'essouffler. Donc ça sera à noter et à regarder attentivement. Et ensuite, il y a effectivement les blocages. Et on le voit dans les reportages qu'on fait, c'est une partie de la CGT qui bloque. La CFDT n'est pas sur cette même ligne concernant notamment les raffineries. Et il y a plusieurs lignes au sein de la CGT. Il y a des lignes de fracture. Je rappelle que dans un peu plus d'une semaine, Philippe Martinez va laisser sa place. On va lui succéder. Sa candidate désignée s'appelle Marie Buisson et elle n'est pas appréciée par ceux qui bloquent justement les raffineries en ce moment. Olivier Matteux, qu'on a vu dans le reportage à l'instant, est également il s'est autodésigné candidat parce que sa candidature a été rejetée par les instances de la CGT. Donc on va voir s'il arrive à s'imposer ou non. Et du coup, les éléments les plus radicaux de la CGT aimeraient trouver une troisième voie. C'est-à-dire ni la candidate de Philippe Martinez, ni Olivier Matteux, dont la candidature a été retoquée. Donc ces blocages, certes l'intersyndicale fait encore corps, notamment on le verra jeudi dans les rues de France, mais sur les blocages, il y a des lignes de fracture et il y a même des lignes de fracture au sein même de la CGT.
C'est là-dessus que peut-être l'exécutif peut miser, in fine.
J'allais dire qu'Olivier Matteux a bien fait ses comptes. Olivier Matteux a bien fait ses comptes. C'est le cas de le dire.
C'est parce que j'ai parlé suffisamment tôt, donc il s'est dit on va le répéter au cas où.
Non, c'est parce que vous avez pas. Bref. Je pense, si vous voulez, qu'il y a une course à la radicalité au sein de la CGT de par l'attitude du gouvernement et du pouvoir de manière générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Martinez n'a pas su obtenir par la grève classique, d'une certaine façon, par la mobilisation traditionnelle, des avancées substantielles en matière de projet de loi pour la réforme des retraites, eh bien, il a suscité, mais à son corps défendant, parce que ce n'est pas lui qui volontairement a suscité ça, il a suscité effectivement une course à l'échalote de celui qui sera le plus radical, y compris parmi ses successeurs. Donc il est évident que la situation, si vous voulez, de manière générale dans le pays et de manière particulière dans les syndicats, est à la crispation. elle n'est pas au désamorçage de la crise, ça c'est sûr.
Allez, on va s'interrompre quelques secondes et puis on revient pour parler d'Emmanuel Macron. Que va-t-il faire? Que peut-il faire? C'est surtout la question qui prévaut aujourd'hui. Nous serons en direct d'ailleurs avec l'une de nos reporters de service politique à l'Élysée, Élodie Huchard, qui nous attend dans quelques minutes. À tout à l'heure. De retour avec vous, le débat reprend juste après le journal. Mickaël Dorian est de retour. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron ne va ni dissoudre, ni remanier, ni convoquer de référendum. Depuis ce matin, le président de la République enchaîne les réunions avant sa prise de parole de demain. Après avoir reçu Elisabeth Borne et les chefs de parti à l'Élysée, il doit également s'entretenir avec les parlementaires d'ici ce soir. À l'Assemblée nationale, vif échange tout à l'heure quand Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise, a interpellé Elisabeth Borne. La première ministre a répondu et accuse Mathilde Panot de ne pas condamner les violences lors des manifestations. Écoutez-les.
Vous céderez car vous ne tenez qu'à 9 voix. Vous céderez car 2 Français sur 3 souhaitent votre départ. Vous céderez car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relève d'une folie. Vous céderez, car le risque d'un débordement de colère est déjà trop grand. Vous céderez, car la police seule ne parviendra pas à faire régner l'ordre.
Madame la présidente Panot, hier soir, votre violence verbale a débordé dans la rue. Mais alors là, sans surprise, vous n'avez plus de mots pour condamner les violences. Au contraire, vous continuez sans relâche votre attaque systématique des institutions républicaines. Vous vous en prenez aux policiers et aux gendarmes. Vous remettez en cause leur travail.
Sur le front de la mobilisation à présent, la tension monte au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer où plusieurs centaines de syndicalistes sont rassemblés. 3 policiers ont été blessés sérieusement lors d'affrontements. Les manifestants s'opposent aux réquisitions de personnel annoncées par le gouvernement. Écoutez Olivier Matteux, secrétaire général de l'UDCGT des Bouches-du-Rhône.
Cette réforme, personne n'en veut. S'il doit y avoir un référendum là dans la minute, ils se font exploser. Si on doit aller chercher un référendum, c'est pour imposer la retraite à 60 ans, le SMIC à 2000 euros, 55 ans et moins pour les métiers pénibles et aucune pension pour nos retraités en dessous du SMIC. C'est sur ça qu'on va les faire se positionner.
D'autres mouvements de protestation contre la réforme des retraites, toujours dans le secteur de l'énergie, en Gironde notamment, un blocage filtrant a été mis en place aux abords de la centrale nucléaire du Blayais. Les précisions sur place avec Antoine Estève.
Les syndicats nous avaient déjà prévenu la semaine dernière. Ce qu'ils veulent, c'est une mobilisation importante chaque jour. Ils sont ici devant la centrale nucléaire depuis une semaine déjà. Mais ce qu'ils veulent, c'est chaque jour montrer un nouveau piquet de grève important avec l'intersyndicale. Donc tous les syndicats sont ici réunis. Il y a la CGT, Force ouvrière, la CFE-CGC qui viennent en nombre. Plusieurs centaines de personnes dans un roulement toute la journée ici à l'entrée de la centrale. Alors ce qui est important aussi de dire, c'est que la sûreté, la sécurité des installations nucléaires ne sont pas affectées par ce piquet de grève. Il y a seulement un filtrage, il y a sûrement des actions de grève à l'intérieur des centrales nucléaires qui fait qu'il y a tout simplement une baisse de production d'électricité en France. On calcule cette baisse de production à l'équivalent environ de 9 à 10 réacteurs au total. Entre 10 et 15 mégawatts ne sont pas produits en France à cause de cette grève. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, l'État français, EDF, est obligé d'acheter de l'électricité à l'étranger. C'est ça, aujourd'hui, l'impact de cette grève dans l'énergie en France et cette grève qui est reconductible et qui pourrait durer encore au moins jusqu'à jeudi.
La mobilisation se poursuit aussi dans les universités alors qu'une marche d'étudiants avait lieu tout à l'heure entre l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, l'un des sites occupés par les éboueurs et les agents de propreté en grève, et la gare d'Austerlitz. Une étape était prévue au niveau du campus de Tolbiac, resté fermé aujourd'hui. Le journaliste français Olivier Dubois a atterri à Paris. Il a été accueilli ce midi par le président de la République Emmanuel Macron à la base aérienne de Villacoublay. Otage pendant près de 2 ans au Mali, il a été libéré hier. Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 par la principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Dans le reste de l'actualité, les actes racistes, xénophobes ou anti-religieux sont en hausse. Ils ont augmenté de 5% en 2022 par rapport à 2021. Au total, 2600 infractions ont été recensées selon le ministère de l'Intérieur. La majorité d'entre elles sont des injures ou des provocations. À noter que c'est à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Bas-Rhin que ces actes sont les plus nombreux. Vous souhaitez aider l'organisation des Jeux Olympiques, des prochains JO, et bien aiguiller les spectateurs dans le stade, par exemple, accompagner un sportif au contrôle antidopage ou encore installer les blocs de départ sur la piste. Paris recrute 45 000 bénévoles. Les candidats auront 6 semaines à compter de demain pour tenter leur chance. Écoutez Tony Estanguet, le président de Paris 2024.
C'est le plus grand programme de volontaires jamais organisé en France. C'est un vrai défi collectif. On souhaite la parité dans ce programme, c'est important pour nous. On souhaite de la diversité, on souhaite inclure au maximum des personnes en situation de handicap, que ce soit pour les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques. On s'est fixé un objectif à 3000 volontaires en situation de handicap. C'est très ambitieux, ça n'a jamais été fait, mais collectivement, on peut relever ce défi.
Et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue bien sûr avec 90 minutes info. Nelly Denac et ses invités.
Merci beaucoup, cher Mickaël. Toujours en compagnie de François Patria, Gauthier Lebray et Jean Messia. On va parler de ces consultations, tous azimuts qui sont menées depuis ce matin. Ces recours aussi déposés auprès du Conseil constitutionnel. Des partis politiques sonnés ou en crise pour certains. Le jour d'après devient le grand flou. Emmanuel Macron en détient-il vraiment la clé? Que fera-t-il réellement? A priori, pas question de renverser la table. Bonjour Élodie Huchard, vous êtes à l'Élysée pour nous aujourd'hui. Il n'y aura ni dissolution, ni remaniement, cela paraît à peu près clair.
Oui, en fait, si on suit la logique du président de la République, pour l'heure, pas de grand bouleversement, plutôt une réflexion, prendre le temps, 15 jours, 3 semaines peut-être, pour que les cadres de la majorité et le président lui-même réfléchissent une nouvelle méthode, un nouveau calendrier législatif, des grands chantiers, tout ça pour trouver un cap, une perspective, évidemment, pour tenter de sortir de cette crise. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en plus de demain, mercredi, le président de la République pourrait reprendre la parole à l'issue de cette phase de concertation et de réflexion. Et puis surtout, on nous explique qu'il est important que le président de la République demain ait un style un petit peu moins guindé, un peu moins rigide que lors d'une allocution solennelle. Le but, c'est qu'il s'invite dans le foyer des Français, qu'il explique son point de vue et surtout pas qu'il ait l'air trop sérieux, trop dramatique comme l'aurait été notamment en 20h. Et puis on rappelle que les concertations continuent à l'Élysée. Il y a eu un déjeuner autour de Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet qui étaient conviés par Emmanuel Macron. Et puis à 19h30, un autre exercice. Il recevra les parlementaires de sa majorité. Le but aussi, c'est que ses députés, ses sénateurs puissent entendre le président de la République, eux qui parfois ont un peu souffert en circonscription, eux qui voulaient notamment à l'Assemblée nationale aller au vote et qui ont pu être déçus. On a vu dans différentes réunions de groupe que ça tanguait du côté de la majorité. Le président va donc leur montrer qu'il a bien un cap et qu'il est déterminé à poursuivre sa politique.
Beaucoup pour toutes ces précisions. Gauthier, on poursuit avec vous. On va encore plus loin pour analyser tout ce qui s'est passé. Avant de revenir au choix d'un 13h plutôt que d'un 20h plus solennel, est-ce que ça traduit aussi? J'aimerais qu'on s'attache à ce qui s'est dit ce matin. On a eu quelques infos coulisses. Comment aborde-t-on cette séquence avec un jour de recul sur ce qui s'est passé hier? Comment on s'est réveillé du côté de l'exécutif?
On minimise l'usage de ce 49.3. On explique du côté de l'exécutif que c'est un article de la Constitution et que donc le président avait raison de s'en saisir s'il jugeait que cette réforme des retraites avait une chance de ne pas, ou un risque, c'est selon, de ne pas passer. Pour Emmanuel Macron, les deux motions de censure ont été rejetées, donc ce n'est pas une défaite. Au contraire, c'est même une victoire. C'est ce qu'il a pu dire ce matin face au cadre de la majorité. Et enfin, cette volonté de minimiser l'usage de 49.3 avait commencé dès ce week-end par les interventions des ministres. Je me souviens d'Olivier Dussopt qui disait la même chose, de Bruno Le Maire qui a dit que la majorité ressortait renforcée de cet épisode. Alors qu'effectivement, on a vu une image qui a beaucoup interpellé les observateurs que nous sommes, les rangs de la majorité clairsemés derrière le banc des ministres, derrière Elisabeth Borne, alors que deux motions de censure étaient soumises aux voix. Comme le disait Élodie, on sait que certains députés aurait aimé aller au vote, quitte à perdre. Donc effectivement, Elisabeth Borne a réuni ce matin les parlementaires de la majorité, autour d'Emmanuel Macron de les réunir ce soir pour effectivement les rassurer et essayer d'atténuer les tensions qu'on peut voir au sein de la majorité.
On va vous faire réagir. Déjà, vos collègues parlementaires de l'Assemblée, est-ce qu'ils ont avalé des couleuvres pendant tous ces mois, ces semaines à attendre, pour au final ne pas avoir le loisir eux-mêmes de voter, de s'exprimer sur ce texte?
Je crois que tout le monde avait à l'esprit le fait que cette réforme, compte tenu des mois qu'il y a eu de négociations, de discussions, de débats, plus de 170 heures au Parlement, etc., ce débat devait aboutir et qu'il devait entériner la réforme des retraites.
Alors pourquoi ne pas y aller?
La réforme des retraites.
Pourquoi ne pas y aller?
Bon. À partir du moment où nous avons quoi ? Nous avons, de devant nous, une gauche qui est factieuse, une droite qui a été un peu veule en l'occurrence, le corps qui n'était pas très prononcé dans ses mesures, et à côté, on est dans un système tripartite aujourd'hui. C'est une tripartite. Alors, la question que je me pose, c'est quand l'opposition utilise tous les moyens mis à sa disposition par la Constitution pour bloquer, pour empêcher le débat, pour empêcher le vote de l'article 7, etc., tout le monde dit... Bravo, c'est bien, l'opposition a le droit. Quand le gouvernement...
Une partie de l'opposition.
Quand le gouvernement... Non, mais tout le monde le dit, c'est bien, on applaudit. C'est bien, ils ont fait du blocage. Bien. Et quand le gouvernement utilise, lui, à son tour, les moyens mis à sa disposition pour faire passer son texte, on crie, à de là, dramatique, c'est un hold-up. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le 49-3, moi, je soutenais Michel Rocard à l'époque, j'ai vu passer la CSG à 3 voix. À 3 voix. Personne ne parle des 3 voix aujourd'hui, c'est passé à 3 voix. Je pense que le 49-3, ce n'est pas un passage en force. Un passage en force, c'est quand on est hors la loi. Okay. Donc on a travesti. Non, c'est quand on est hors de la loi. Mais... quand on utilise des moyens républicains que la Constitution autorise, ça n'est pas un passage en force.
Néanmoins, François Patriat.
Alors maintenant, l'état de la majorité.
S'il a vraiment dit, le chef de l'État, c'est une victoire avec 9 voix d'écart, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indécence à prononcer ce mot ?
Si Mme Panot était élue avec une voix... est-ce qu'elle dirait qu'elle a été élue à une voix ? Elle dirait,
c'est pas la même légitimité
quand même.
Elle dirait,
je suis député, j'ai eu une voix d'avance.
Est-ce que c'est la même légitimité ?
Dans la démocratie, une voix c'est la majorité.
Une voix suffit.
Attendez, je finis.
Non. Allez-y.
Bon, donc maintenant, quel est l'état d'esprit ? Moi, j'ai rencontré, j'étais ce matin à l'Élysée, et je serai ce soir à l'Élysée avec les autres parlementaires. La majeure partie des parlementaires que j'ai vus depuis jeudi dernier, tous disent aujourd'hui, personne ne regrette l'usage du 49-3 et tous disent aujourd'hui qu'en fin de compte, ils pensent que la loi devait être votée et qu'elle est votée. Il y avait des gens qui auraient préféré. Moi, à titre personnel, j'ai cru jusqu'au bout que la loi allait passer. Il y a eu des défections, on ne fait pas le match aujourd'hui, ce n'est pas la peine. J'ai pensé qu'elle allait passer. À partir du moment où l'incertitude est trop grande, où les gens sur qui vous comptez vous font défaut, il est normal que le gouvernement ne prenne pas de risque. À partir du moment où vous n'allez pas à un vote, vous êtes sûr d'être battu comme ça.
Il faut un vote pour y aller. Non, c'est pas ça la démocratie, c'est accepter de perdre.
La démocratie.
Et sinon, ça s'appelle être mauvais joueur.
Non. Ah bah, si à chaque fois qu'on utilise la Constitution, alors est-ce que quand l'opposition empêche le débat au Parlement et le vote de l'article 7, elle est mauvais joueur ?
Non, mais ceci dit, il y aura des recours devant le Conseil constitutionnel sur l'emploi dans le cadre du PLFSS. Il y aura quand même des recours de ce point de vue-là.
Est-ce que vous ne pensez pas que dans les débats, moi je ne veux pas tout le refaire le match, mais est-ce que dans ces débats, ceux qui étaient au Sénat, on a bien vu qu'au Sénat, le texte a été voté. Parce que la parole a été tenue. Parce que le gouvernement avait un texte de loi. Attendez, le texte de loi. Non, attendez. On a fait plus de 120 heures de débat et tous les 8000 amendements ont été examinés.
Il y a eu un vote.
Et il y a eu un vote. Mais au Sénat, l'engagement.
Il y a eu l'engagement bloqué au Sénat.
Attendez, sur les derniers articles. Sur les 4 derniers articles simplement, parce que l'opposition faisait un tel blocage qu'elle ne voulait pas qu'on vote. Justement, nous voulions voter. Donc, c'est clair. Mais tous les amendements ont été examinés avec avis de la Commission.
Allez, Jean Messia, pour vous répondre, et pour répondre vraiment à ce terme de s'il a vraiment prononcé ça, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de notre président de la République de parler de victoire après un texte qui, quand même, a touché au forceps.
Vous auriez voulu qu'il dise défaite ?
J'ai écouté, si vous voulez, avec une grande béatitude et la bouche ouverte, l'exposé de M. Patriat sur la situation du pays.
Merci de reconnaître mes talents.
Sur la forme, je n'ai rien à dire. Sur le fond, par contre, vous allez moins apprécier.
Très bien.
Je crois que vous n'habitez pas en France, en fait.
Ah bon.
C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez le pays dont pourtant vous êtes élu. Vous n'entendez pas ce qui se passe dans le pays, vous ne le voyez pas. Il y a 2 démocraties, si vous voulez. Il y a une démocratie qui est légaliste. Alors ça vous arrange parce que c'est la démocratie qui est confiné dans une bulle de droit, de constitution, parfait. Je ne dis pas que vous avez été dans l'illégalité. Tout ce que vous avez fait est parfaitement démocratique du point de vue de la légalité. Mais le problème, c'est qu'en plus de la légalité, la démocratie doit avoir aussi une légitimité. Alors je sais bien que depuis la cohabitation, le régime de cohabitation, la légitimité démocratique a été foulée aux pieds parce qu'on a, figurez-vous, des présidents qui, malgré le fait qu'ils soient désavoués dans les urnes par une majorité qui n'est plus présidentielle, mais qui est dans l'opposition, le président de la République restait toujours au pouvoir, que cette légitimité démocratique a été piétinée, foulée aux pieds par des présidents. Effectivement, là, le pays exprime légitimement une colère. Vous ne pouvez pas dire que les Français, depuis des semaines, à travers tous les canaux dont ils disposent, pas seulement les sondages, Quand vous arrivez à réunir 1,5 million de personnes dans la rue, dans une société qui plus est fragmentée, atomisée, individualisée, ça équivaut à 4 ou 5 millions de la société des années 60 ou 70. Donc aujourd'hui, vous réunissez 1,5. Je ne connais pas d'autres causes.
L'inverse.
Je ne connais pas d'autres causes qui puissent mobiliser autant de personnes. Plus le bazar qu'il y a à l'Assemblée nationale où vous, à 9 fois près, vous avez failli perdre le gouvernement. Être sourd à ça. Alors je sais bien que le macronisme est connu pour une forme de hauteur. Enfin, ils appellent ça de la hauteur. En réalité, c'est de la morgue, de la désinvolture et du mépris vis-à-vis de ce que pensent les Français. Dire dans les conditions actuelles, avec les violences qu'il y a, avec ce qui s'est passé à 9 voix près au Parlement, avec les oppositions au Parlement, dire que c'est une victoire, franchement, je ne sais pas dans quel monde déconnecté vous vivez.
Merci. On va passer à ce que je vous disais tout à l'heure, Gauthier. Le choix, il va finir par s'exprimer, donc au sortir de cette séquence de 2 mois où on l'a pas beaucoup entendu. Il va parler demain à 13h. Pourquoi a-t-il choisi un 13h plutôt qu'un 20h avec un format plus solennel, plus grandiloquent, que peut-être le contexte aurait justifié quand même, parce que l'heure est grave aujourd'hui.
Mais dans la même volonté que je vous expliquais, c'est-à-dire minimiser l'usage de ce 49.3, ne pas faire d'allocution solennelle, car on fait une allocution solennelle quand il s'est passé quelque chose de grave, quand on a quelque chose de grave à annoncer aux Français. Évidemment, on pense tout de suite au confinement, notamment. Et donc, pourquoi à 13h plutôt qu'à 20h? Effectivement, les oppositions lui répondent qu'il va s'adresser à ceux qui ne sont pas actifs, puisque je vous rappelle que ceux qui sont principalement opposés à cette réforme des retraites, quasiment 9 sur 10, ce sont les actifs. Et par définition, ils ne sont pas devant leur télé à 13h. C'est plutôt les retraités qui sont devant leur télé.
Donc c'est une manière de dire circuler, il n'y a rien à voir.
C'est une manière de très clairement de minimiser ce qui s'est passé. En plus, les retraités, ils ne sont pas concernés par cette réforme. C'était l'un des arguments du gouvernement. On ne baisse pas les retraites, on n'augmente pas les cotisations. C'est pour ça qu'on va demander aux Français de travailler 2 ans de plus. Et les retraités, c'est un électorat très favorable à Emmanuel Macron. Et comme, pour aller continuer dans cette minimisation de ce qui s'est passé, on l'a dit, pas de remaniement, alors qu'on a cru dans un premier temps qu'Elisabeth Borne, c'est même ce qu'elle avait dit au président de la République, elle pouvait être infusible. Elle ne sera pas infusible, pas de dissolution et pas de référendum non plus.
Mais juste un mot sur ce choix de format. Ouais,
bah c'est drôle, au moment des Gilets jaunes, il s'était adressé au pays à 20h, non?
Oui, il aurait été grave.
Alors donc là, on est moins grave, là.
Bah, selon
le président, selon lui,
à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de crise institutionnelle, il n'y avait pas de crise de régime, il n'y avait pas de crise politique, il n'y avait pas une coagulation d'opposition qui ont failli faire tomber le gouvernement. Excusez-moi, la gravité de la situation aujourd'hui est beaucoup plus importante que la gravité, en tout cas du point de vue institutionnel et juridique. Elle était beaucoup moins grave à l'époque.
Alors parlons quand même de la marge de manœuvre dont il dispose réellement. Et on parlera aussi après du sort réservé à Elisabeth Borne pour la suite et de sa marge de manœuvre à elle. On sait que, a priori, l'agenda des réformes va être grandement modifié. On attendait prochainement un texte sur l'immigration.
Ça a été l'un des sujets du déjeuner entre Gérard Larcher
et il attend des propositions.
Et Emmanuel Macron, parce que effectivement, le texte porté par Gérald Darmanin sur l'immigration devait commencer par le Sénat, où les Républicains sont majoritaires. On sait que les députés LR, Éric Ciotti, a déjà dit qu'il voterait contre cette loi immigration. Alors que quand vous échangez avec les sénateurs LR, c'est souvent plus nuancé qu'avec les députés Les Républicains. C'est-à-dire que les sénateurs veulent modifier le texte, mais pourquoi pas le voter si ça va dans le bon sens. Alors que les députés LR sont beaucoup plus obtus et beaucoup plus fermés. On l'a vu notamment dans cette réforme des retraites. Donc effectivement, ce texte immigration va peut-être être rangé dans un tiroir pendant un temps parce que le gouvernement ne pourra pas se payer le luxe d'utiliser un nouveau 49.3. Politiquement, ça serait intenable. Donc Emmanuel Macron va privilégier des textes qui pourraient faire plus consensus au sein de l'Assemblée nationale.
Si victoire il y a, est-ce que ce n'est pas finalement une victoire de courte durée compte tenu de ce que nous dit Gauthier la suite?
Je reviens sur le fait. Imaginez, alors qu'est-ce que vous auriez dit si le gouvernement avait perdu? Vous auriez dit, vous auriez dit quoi? Je comprends.
C'est une défaite pour l'exécutif.
Le texte est passé et la réforme est passée. C'est clair. Bon, il peut y avoir maintenant des. On va être vigilants. Il y aura sans doute encore des manifestations. On en a parlé un peu tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que souhaite le chef de l'État? Je ne vais pas vous dire ce qu'il nous a dit ce matin. Je vous dis simplement que dans l'État où nous sommes aujourd'hui, effectivement, si je suis votre raisonnement, nous sommes dans une forme de censure latente. Avec la volonté, que j'entends parmi certains journalistes autour de nous, le souhait de voir que plus aucun texte soit voté maintenant et qu'on arrive à un blocage. Ce n'est pas ce que veut le gouvernement. Ce n'est pas ce que veut le chef de l'État. Vous pouvez le dire comme tel. Ce n'est pas ce que dit le chef de l'État. Le chef de l'État dit aujourd'hui, essayons de travailler mieux pour arriver à ce que les textes soient votés. Et si effectivement, je ne sais pas la décision qui est prise, mais je sais que le texte sur l'immigration a été passé en commission au Sénat, qu'il y a de nombreux amendements qui le durcissent sur certains points et qui ne plaisent pas au gouvernement, ni qui ne plaiseront pas non plus à l'Assemblée nationale. Donc, ce que dit aujourd'hui le chef de l'État et le président du Sénat, ils disent, écoutez, prenons le temps de regarder le texte et de voir si nous avons un moyen d'aboutir. Après tout, c'est ce que vous avez demandé à cor et à cri pendant des semaines. Mais le gouvernement prend aujourd'hui le temps d'écouter sa majorité, d'écouter l'opposition et de dire, bon voilà, est-ce qu'on peut y arriver ou pas? Est-ce qu'on peut y arriver? On verra si on peut y arriver ou pas. Si, c'est pas de bonne méthode.
Si ça passe au Sénat, comme oui. D'ailleurs la réforme des retraites, mais que ça bloque à l'Assemblée, comment vous faites?
Ce sera d'abord, il peut y avoir deux lectures, il peut y avoir des relectures. Hein. Il peut y avoir une lecture,
il y aura plus de 49-3,
une lecture à l'Assemblée. Non, attendez, il peut y avoir une lecture au Sénat, une lecture à l'Assemblée, revenir au Sénat.
Mais vous voyez bien.
Une lecture à l'Assemblée, commission mixte paritaire, et après on voit.
Mais vous voyez c'est bien le bazar dans lequel vous êtes. Vous venez de le décrire.
C'est le propre de toutes les lois.
Oui, oui.
Toutes les lois, quand il n'y a pas urgence, il y a deux lectures.
Mais là.
Il y a deux lectures.
Est-ce que les réformes sont bloquées là en l'état?
Pardonnez-moi, monsieur le sénateur, mais vous feignez de.
Vous ne m'avez pas laissé finir.
Vous feignez de.
Vous avez fait long quand même, il faut le dire.
Il faut te dire que j'essaye de pas.
Vous feignez de mettre quand même quelque chose.
Des pédagogues.
Vous oubliez quand même quelque chose de très important, c'est que.
Vous voulez le chaos. J'ai compris que vous vouliez le chaos.
Mais non, personne ne dit ça.
Vous l'annoncez à longueur de micro et d'antenne.
Mais ça va être le chaos. C'est bien la griffe du macronisme.
Mais vous êtes un prophète de chaos.
Tous ceux qui sont pas d'accord.
Vous êtes un prophète de chaos et de blocage.
Vous savez, le mot messia vient de messie. C'est en général pas le messie du chaos. C'est au contraire le messie pour réveiller les gens. Vous comprenez, c'est un peu mon
modeste. Allez, blague à part.
Pour les intoxiquer.
Si on peut arrêter les petites phrases.
C'est qu'en réalité, vous avez mangé votre pain blanc. C'est-à-dire qu'au départ, quand Emmanuel Macron a été réélu et qu'il a eu une majorité relative, les premiers textes, ça s'est bien passé. Tout le monde a dit, vous voyez, on arrive à trouver des modus operandi malgré la majorité relative. Pourquoi? Parce que c'était des textes qui engageaient des dépenses publiques auxquelles donc la LFI était favorable.
Le
RN, était favorable.
Le texte assurant chômage, c'est pas vrai.
Mais vous connaissez les conditions dans lesquelles il est passé. Bon. Avec les Républicains. Là, on va arriver, si vous voulez. Donc déjà, la réforme des retraites, quand vous voyez sur un texte de la réforme des retraites qui quand même concerne les gens dans plusieurs dizaines d'années, regardez le bazar que ça fait. Est-ce que vous pensez sincèrement que le texte de loi sur l'immigration va être plus consensuel que celui sur les retraites et donc va passer plus facilement? Arrêtez, c'est une plaisanterie.
Vous voudriez dire par là qu'on ne peut pas parler d'immigration dans ce pays?
Je pense que vous ne pourrez plus passer un seul texte après ce qui vient de se passer à l'Assemblée.
Allez, on en reparle.
Que ça va être la croix et la bannière pour vous de faire passer le bon texte au Parlement.
On en reparle, évidemment, dans la demi-heure qui suit. Il nous reste quelques minutes quand même pour revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée cet après-midi, parce que vous le savez, le mardi, ce sont les questions au gouvernement. On l'a évoqué à demi-mot jusqu'à présent. Elisabeth Borne peut-elle encore incarner l'exécutif? A priori, bon, il ne va pas en changer. Mais quelle crédibilité conserve-t-elle au sortir de ça? Écoutez ce que disaient les oppositions, justement, auxquelles
vous
faisiez référence.
Vous céderez car vous ne tenez qu'à 9 voix. Vous céderez car 2 Français sur 3 souhaitent votre départ. Vous céderez car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relève d'une folie. Vous céderez car le risque d'un débordement de colère est déjà trop grand. Vous céderez car la police seule ne parviendra pas à faire régner l'ordre.
Vous avez tout raté là-dedans. La bataille de l'opinion politique, les concertations inexistantes, le passage devant l'Assemblée nationale, même un deal véreux avec une fausse opposition en échange de quelques sorties d'autoroute. Madame la Première Ministre, la question est simple. Qu'attendez-vous pour rendre le meilleur service que vous pouvez rendre à notre République, c'est-à-dire de démissionner?
Elle ne démissionnera pas.
Non, parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas céder à l'ambiance médiatique et céder aux oppositions, à la pression médiatique et aux oppositions. Donc effectivement, il ne fera pas vraisemblablement d'Elisabeth Borne un fusible. Elle leur a répondu aux oppositions, Elisabeth Borne. On n'a pas entendu sa réponse, mais elle a notamment ciblé Mathilde Panot et elle a rendu responsable, c'est très intéressant politiquement, la France insoumise des violences dans la rue, notamment hier.
On en reparle.
Mathilde Panot et M. Mélenchon appellent au chaos, au blocage du pays, la France à genoux.
La fameuse bordélisation.
Il le fait depuis le début. Si vous ne l'avez pas vu, comme quoi il justifie la violence. M. Bompard ne la condamne pas. Il ne condamne pas la violence, ils appellent à la violence. Alors aujourd'hui, Madame Borne a raison. Et en fin de compte, pour venir un instant sur Madame Borne, Madame Borne a-t-elle démérité? En quoi a-t-elle démérité?
Elle n'a pas réussi à trouver un vote. Elle n'a pas réussi à faire voter la réforme des retraites au Parlement et Olivier Dussopt non plus. C'était une ambition.
L'accord qu'elle avait.
Trouver une majorité. Quoi a-t-elle démérité?
Un instant, je reviens. Lorsque M. Marleix et le président des Républicains sortent de leur rencontre avec Borne, ils nous disent nous sommes satisfaits. Nous avons obtenu ce que nous souhaitions. Nous ne voulions pas 65, nous voulions 64. Nous voulions que le stock des retraités soit pris en compte avec les actifs. Il a été pris. Nous voulions les carrières longues. Il a été pris. Quand des gens, responsables politiques, présidents de parti, disent publiquement devant des caméras de télévision, nous sommes d'accord, nous voterons le texte, parce que nous avons obtenu gain de cause, parce que Mme Borne nous a entendus, et qu'après on vote contre.
Donc il y a une trahison pour vous. On revient à ce qui s'est passé. Merci, on doit s'interrompre quelques secondes. On revient à ce qui s'est passé et ce qui s'est noué du côté des LR et de l'État aussi. L'état de cette division aujourd'hui, cette scission même pratiquement. Il y a un schisme au sein des LR, juste après la pub, à tout à l'heure. ...90 minutes info de retour juste après. Un rappel des principaux titres de l'actualité en compagnie d'Adrien Spiteri.
Les grèves et les manifestations continuent en France au lendemain du rejet des deux motions de censure à l'Assemblée nationale. Une manifestation étudiante est partie de l'incinérateur d'Ivry cet après-midi en soutien aux éboueurs. Le cortège doit rejoindre la gare d'Austerlitz via la faculté de Tolbiac. Olivier Dubois est rentré en France. Le journaliste français a été accueilli par Emmanuel Macron et ses proches dans les Yvelines aujourd'hui. « Je n'ai pas été maltraité, ni humilié, ni frappé », a-t-il déclaré. Otage pendant près de 2 ans au Mali, il a été libéré hier. Il avait été enlevé par la principale alliance djihadiste au Sahel. Et puis Donald Trump va-t-il être arrêté et inculpé? L'ancien président américain avait annoncé la nouvelle le week-end dernier en cause d'une affaire de paiement à une actrice de film pornographique avec qui il aurait eu une liaison. Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières.
On continue notre débat autour de cette question. Emmanuel Macron peut-il encore réformer? Sur quel texte va-t-il trouver désormais une majorité solide? Et puis quid de sa première ministre pour porter les futurs textes à venir? Écoutez ce qu'en disaient deux membres de l'opposition à propos d'Elisabeth Borne.
Madame Borne, c'est terminé. Pardon. Je pense que M. Dussopt, Madame Borne, tous ceux qui incarnent cette mauvaise méthode, ce double discours, vous venez de le dire, on est pour des majorités d'idées. Elle n'a cessé de répéter ça et ils ont fait strictement l'inverse. Tout de même, toutes les organisations syndicales, je dis bien toutes, étaient contre. Quel bilan! Ils n'ont même pas réussi à avoir le groupe LR dans la globalité avec eux alors qu'ils ont passé leur temps à faire ça. Bref, tout ça est brouillon, mal fait. Et elle incarne désormais cette défaite. Et elle va subir, elle, ce que je suis en train de dire, la violence de la Ve République. C'est-à-dire que ce président qui a voulu cette réforme va l'utiliser, le mot est d'elle d'ailleurs, comme un fusible.
Avoir demain une Elisabeth Borne avec une moustache, ça ne changera rien. Dire bon, ce sera la même politique, la même manière très certainement de gouverner, parce qu'en réalité c'est Emmanuel Macron qui est responsable de cela.
Jean Messia, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de doctrine Macron qui ne passe pas.
Si c'est toujours la même musique qui est jouée, on s'en fiche un peu du musicien, si vous voulez. Le problème, ce n'est pas le musicien, le problème, c'est la musique qui est jouée, c'est-à-dire la politique qui est menée en réalité. Et si vous voulez, c'est quand même assez... Je pense que la plupart des Français sont atterrés, si vous voulez, de cette espèce de triomphalisme sourd que nous entendons de la part du gouvernement, qui s'imagine que juste parce que la légalité a été respectée, ils annoncent ça comme une victoire. Ça me donne envie de dire qu'au royaume des aveugles, Borne est reine, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous manquez d'acuité visuelle pour voir... ou d'acuité auditive pour entendre ce qui se passe véritablement dans le pays. Vous m'avez tout à l'heure accusé d'être le prophète du chaos, mais monsieur Patria, qui crée le chaos aujourd'hui? C'est pas moi qui suis au pouvoir, c'est pas les gens qui pensent comme moi qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont vous et vos amis. C'est vous qui provoquez ces scènes de chaos. Donc quand j'entends à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale Madame Borne nous expliquer que c'est Madame Panot ou je ne sais qui d'autre qui est responsable du bazar et du vandalisme et de la violence dans la rue, c'est faux. C'est faux, c'est pas elle qui est au pouvoir. Qui génère ça? Qui génère cette violence? Qui génère ces manifestations, cette sauvagerie, cette brutalité? C'est pas les gens.
Il faut arrêter toutes les mesures courageuses.
C'est pas faut être démago. Non mais attendez, qu'est-ce que vous appelez courage? Le courage, c'est de tordre le cou au peuple. C'est ça votre courage?
Difficile, pas populaire.
Le véritable courage
en politique.
Je considère que le courage en politique, c'est de faire ce que dicte le peuple, quand bien même vous n'en êtes pas convaincu.
Il n'y a pas de mandat impératif dans notre pays.
Le courage, c'est pas d'aller contre la volonté du peuple en prétendant ensuite que la France est ingouvernable, parce que c'est votre petit jeu à vous, à vos amis, depuis des décennies.
J'aimerais qu'on parle des Républicains. L'heure est grave du côté des Républicains. Ils ont réuni un comité stratégique au sortir de cette séquence. On rappelle quand même que sur les 62, je crois, députés républicains, 19 ont voté pour la motion de censure transpartisane, ce qui fait quand même grosso modo un tiers des troupes. Gauthier Lebret, l'heure de la scission a-t-elle sonné? En tout cas, on l'a bien compris, ça va laisser quelques traces. On va peut-être les écouter, puis je reviens vers vous.
Ce débat a fait apparaître des différences, des divergences. Eh bien, nous avons le devoir de le surmonter. Je serai le garant aussi de la cohérence d'une ligne de notre famille politique. Ce que nous avons subi est une épreuve. C'est quelque part aussi un échec.
Toutes les questions ont été évoquées. Vous connaissez ma position. Je considère qu'il n'y a pas aujourd'hui lieu de se rapprocher d'une confusion avec Emmanuel Macron, que ce serait le pire chemin qui ferait le nid du Front National et de l'extrême gauche.
Ça commence à devenir un peu récurrent quand même dans cette famille politique, hein, les scissions comme ça, cette famille qui décidément se cherche désespérément un cap et même un chef en fait.
Mais là c'est peut-être encore plus grave qu'avant. Alors comment expliquer une telle division, une telle scission? Personne ne va être exclu, hein, contrairement à ce qu'on avait pu entendre dans un premier temps, à la fois d'Olivier Marleix et d'Éric Ciotti qui ne fermaient pas la porte. Mais quand vous avez 19 députés, c'est-à-dire un tiers du groupe qui a voté la motion de censure, vous ne pouvez pas exclure quasiment 20 députés quand vous n'en avez que 61. C'est pas possible. Alors comment l'expliquer? En fait, il faut bien comprendre les électorats très différents des députés LR. C'est-à-dire que quand vous êtes un député comme Éric Ciotti, vous avez de nombreux retraités du sud de la France qui sont favorables à une réforme des retraites, j'allais dire pourquoi pas à 70 ans. Alors que quand vous êtes Aurélien Pradié et que vous avez été élu avec des voix de Marine Le Pen, c'est-à-dire que, je m'explique, dans les circonscriptions des proches d'Aurélien Pradié, donc Aurélien Pradié lui-même, Pierre-Henri Dumont, Marine Le Pen a parfois fait un meilleur score au second tour qu'Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen, évidemment, et ses électeurs très farouchement opposés à cette réforme des retraites. Donc si vous voulez vous retrouver avec des députés LR qui ont des électorats très différents et chacun en fait en fonction de sa circonscription et pas en fonction de la ligne du parti. Donc à partir de ce moment-là, vous avez les divisions qu'on voit au grand jour sur la place publique.
C'est compliqué de rester un bloc monolithique dans ces conditions, en effet. Néanmoins, il y a des questions de personnes aussi, et d'égo.
Attends, m'attriste un peu. Ça voudrait dire qu'il y a des députés, des parlementaires qui votent en fonction de leur réélection et pas de l'intérêt du pays.
Ils font en fonction de leur circonscription, absolument.
De leur réélection. Parce que j'ai des électeurs, je risque de perdre mon élection, donc je vote comme ministre. Très bien, bravo. En politique, moi, vous savez, ça m'est arrivé de voter contre ce qu'on me disait dans mon territoire, mais ce que je pensais bon, et loi de santé publique en particulier. Tout le monde n'en voulait pas, j'en ai eu. Et je les ai votés quand même, malgré tout, et j'ai perdu mon siège. Et je l'ai assumé. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Donc s'il y a des gens aujourd'hui, maintenant, je dis que je rends aussi hommage aux Républicains qui ont, pas tous comme M. Ciotti, qui est dans l'électorat, vous le connaissez, mais qui ont courageusement voté STEC. Il y a des députés du Jura, que je connais, qui ont un électeur Front National.
Qui ont voté quel texte, du coup, parce qu'il n'y a pas eu de vote sur le texte.
Qui n'ont pas voté la censure.
Ah, d'accord.
Qui ont dit ouvertement qu'ils voteraient le texte. Ils ne sont pas tous de la même façon. Bon, un instant quand même sur la victoire. J'entends bien parler aujourd'hui, mais quelle a été la démonstration de ce vote? Ce n'est pas tant les 9 voix du 49-3. C'est la démonstration qu'il n'y a pas de majorité alternative. L'alliance de la carpe et du lapin entre le RN et LFI fait-il une majorité pour gouverner demain? Dites-le-moi. Est-ce que ça fait une majorité pour gouverner demain?
Ça
ne fera jamais une majorité. Donc aujourd'hui, qui est-ce qui est capable d'avoir une majorité, même relative, et même avec une partie des Républicains? C'est nous.
Ah oui?
Alors exactement.
Dissolver l'Assemblée nationale qu'on voit un peu.
Voilà.
Si vous aurez
dites-moi, où est la majorité? Quelle est la majorité alternative? On a une motion de censure positive quand on a une majorité alternative, il n'y en avait pas.
Mais vous n'êtes pas majoritaire dans le pays. Hein. Si on refait des élections législatives aujourd'hui, vous la perdez, votre majorité.
In fine, la dissolution sera inéluctable pour sortir de cette crise, de ce blocage.
Si Emmanuel Macron fait le choix de dissoudre demain, il a de grandes chances de perdre effectivement sa majorité relative et de renforcer les rangs du Rassemblement national. C'est ce que disent toutes les enquêtes d'opinion. Donc effectivement, il est dans une impasse parce qu'avec la configuration telle qu'elle est aujourd'hui de l'Assemblée nationale, il ne pourra pas faire ce qu'il veut puisque l'alliance avec les Républicains, ça fonctionne une fois sur deux, pour ne pas dire une fois sur trois. Et s'il dissout, alors là, plus aucune réforme n'est possible, puisqu'on se retrouverait avec deux blocs quasiment égalitaires, si on en croit les enquêtes d'opinion, entre la majorité d'aujourd'hui et le Rassemblement national.
Je vous propose d'écouter ce que disait Marine Le Pen sur l'antenne d'Europe 1 ce matin à propos des Républicains, justement.
je ne sais pas s'il existe encore un parti, les Républicains. Un parti, c'est quand même une association de gens qui partagent le même corpus idéologique. Il n'y a plus de corpus idéologique à LR, il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus rien du tout. Donc je crois qu'il n'y a plus de mouvement LR. Et ce qu'il en reste a profondément déçu, à mon sens, une grande partie de leurs électeurs, dont je rappelle qu'une majorité de leurs électeurs étaient pour le vote de la motion de censure. Donc ils sont devenus en réalité un soutien de la majorité.
Il y aura des conséquences électorales à tout ça. Les électeurs ont-ils tant de mémoire que ça, Jean Messia?
Des conséquences électorales, pour l'instant, comme il n'y a pas d'élection, c'est précisément à ça que s'emploie la...
Mais pour plus tard, vu les divergences entre républicains.
Moi, je crois que s'ouvre une période de très grande incertitude, parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, le pays et nos institutions sont bloquées. Ce que disait M. Patria n'est pas complètement faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si on dissout l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y aura une majorité susceptible, ou même des alliances susceptibles de constituer un gouvernement homogène? Je n'en suis pas sûr et je suis même sûr du contraire. Mais le problème, c'est que le statu quo, lui non plus, n'est pas optimal, puisque, encore une fois, même sur un texte comme celui de la réforme des retraites, qui est un texte qui concerne, qui va rentrer en vigueur dans la décennie, on a quand même ce que vous avez vu. Donc imaginez tous les textes qui vont suivre. Ça va être très compliqué, je pense, de dégager une majorité sur des textes aussi sensibles que la loi sur l'immigration, par exemple, dont on sait que c'est un sujet qui est extrêmement inflammable et qui constitue des lignes de fracture au sein même...
Visiblement, pour l'instant, elle est reléguée au calendrier grec. Hein.
Et pour cause. Donc si vous voulez, soit c'est le statu quo, on ne fait rien passer, le Parlement est bloqué parce que de toute façon, le gouvernement sort, quoi qu'il en dise, terriblement affaibli de ce qui vient de se passer, même si la motion de censure n'a pas été votée, elle l'a été que de très peu, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire de la Ve République, convenez-en. Mais surtout, même si on dissout, il n'y aura pas non plus de majorité. Donc le pays est bloqué. Je crois que la meilleure des solutions eût été quand même pour apaiser la situation... soit un remaniement, soit tout simplement grand seigneur, Emmanuel Macron annonce que même si le gouvernement ne tombe pas, de lui-même, il retire la réforme pour apaiser le pays et panser ses plaies. Mais je crois qu'Emmanuel Macron, vu son narcissisme, et comme disait Henri de Monterland, malheur au pays dont le roi est un enfant.
Une petite interruption.
Ce qui a surtout changé en un mot, contrairement par exemple à Nicolas Sarkozy, qui est le dernier à avoir fait une réforme des retraites décalant l'âge légal de 60 à 62 ans, Nicolas Sarkozy, il était très minoritaire dans la rue, mais il était majoritaire au Parlement, il avait la majorité absolue. Mmh. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est ça le vrai changement par rapport...
C'est l'alignement.
Exactement.
Je crois qu'ils ont surtout mal jugé ou présagé ce qui allait se passer avec les LR et ils étaient...
Oui, parce qu'Olivier Marleix, c'était comme le disait le sénateur Patria, s'était engagé à apporter les voix qui manquaient de LR. Et jeudi, le jour du 49-3, il a appelé Elisabeth Borne pour lui dire qu'il ne pourra pas lui fournir les voix qui manquent.
Petite interruption, on revient pour parler des recours. Il reste des recours. Hein. Des recours ont été déposés au Conseil constitutionnel. On verra ce que ça donne. Et puis on parlera aussi, c'est un peu plus technique, du référendum d'initiative partagée. Est-ce que ça a une chance d'aboutir? À tout à l'heure.
Techno, enfin gâté.
De retour avec vous dans 90 minutes info. On entame la toute dernière partie de cette émission avec nos invités. On va reparler politique, mais j'aimerais qu'on fasse un petit détour par l'actualité immédiate dans la rue. On vous parle depuis plusieurs jours de ces manifestations spontanées qui dégénèrent parfois à l'appel parfois d'étudiantes, de cette jeunesse qui se mobilise dans la rue. C'est le cas cet après-midi du côté de la gare d'Austerlitz. Bonjour Jeanne Cancard. Des étudiants qui spontanément sont venus en soutien au mouvement des éboueurs. Racontez-nous, combien sont-ils? Et que demande-t-il précisément au sortir de cette séquence parlementaire assez mouvementée?
Exactement, Nelly. Des étudiants, 1 million environ d'étudiants, vous le voyez en ce moment sur les images de Fabrice Esner. Ils sont en ce moment présents devant la gare d'Austerlitz, mais ils sont partis un petit peu plus tôt, il y a 1h30 environ, depuis l'incinérateur d'Ivry, parce qu'ils voulaient afficher leur soutien aux éboueurs actuellement en grève. C'est pas seulement aux éboueurs auxquels ils veulent apporter leur soutien, mais à plusieurs corps de métier, notamment les cheminots. C'est aussi pour ça qu'ils ont décidé, de terminer cette manifestation, cette marche devant la gare d'Austerlitz. Vous voyez qu'il y a environ 1 millier de personnes qui sont réunies ici, pour la plupart des étudiants qui donc souhaitaient afficher leur soutien, mais aussi d'autres étudiants de différentes universités qui sont venus ici pour les rejoindre. Ce qu'ils demandent tout simplement, c'est le retrait de cette réforme des retraites au lendemain du rejet des deux motions de censure présentées à l'Assemblée nationale. Ils veulent que Emmanuel Macron ne promulgue pas cette loi, un petit peu comme l'avait fait Jacques Chirac déjà en 2006 avec le CPE. Et parmi les manifestants qui sont actuellement présents ici, certains vont ont rejoint d'autres rassemblements qui auront lieu un petit peu plus tard dans la journée, notamment à République et à l'Hôtel de Ville, pour continuer leur contestation ici dans les rues de la capitale.
Merci beaucoup Jeanne Cancard, Fabrice Elsner pour les images. On voulait vous faire part donc de ce qui se déroule à 17h dans les rues de Paris. On va reparler de ce qui pourrait intervenir après le texte qui devrait donc être promulgué. Mais peut-il être retoqué par le Conseil constitutionnel? Vous le savez, le RN a déposé aux premières heures de la matinée un recours. On va entendre les deux représentants de cette formation politique s'en exprimer à la sortie.
C'est de faire en sorte que ce texte tombe dans les oubliettes de l'histoire, soit mis à la poubelle en ayant une censure globale.
On ne fait pas les choses en mettant pas toute notre intention. Évidemment, il y a des jurisprudences déjà qui ont pu exister. Et encore une fois, c'était important pour nous de dire aux Français, voilà, la boucle est bouclée, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour empêcher cette réforme inique et brutale.
Gauthier Lebret du service politique, quelle chance réelle auprès du Conseil constitutionnel de voir ce texte retoqué?
Alors, il faut savoir que pour porter cette réforme des retraites, le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, projet de loi rectificatif de la sécurité sociale. Pourquoi un texte budgétaire? Parce que sur les textes budgétaires, l'usage des 49.3 est illimité. On en est à 11 depuis le début de cette nouvelle session. Tandis que pour les autres textes, vous n'avez le droit qu'à un 49.3 par session. Donc le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Alors dans ce cas-là, il faut que chaque article soit un article budgétaire. Et c'est là qu'il y a un hic, notamment l'article 2 sur l'index senior qui vise à contraindre les entreprises de révéler leurs données sur le nombre de seniors qu'elles emploient. Et cet index senior pourrait tomber avec le Conseil constitutionnel puisqu'a priori, ce n'est pas un article budgétaire justement. Alors le risque de voir toute la réforme est bien retoquée par Laurent Fabius et les sages du Conseil constitutionnel est faible. Ça sera un terrible revers, évidemment, pour le gouvernement. Mais c'est possible que des articles qui ne sont pas budgétaires soient retoqués par le Conseil constitutionnel.
Donc, des modifications à la marge, ça affaiblit quand même la portée de ce 49.3.
J'ai cru comprendre que les avancées qu'il y avait dans le texte tel que les a obtenues le gouvernement passaient pour peu de choses aux yeux de certains opposants et de certains syndicalistes. Malgré que moi, je pense qu'elles sont importantes.
Bien que.
Effectivement, il peut y avoir deux sujets au Conseil constitutionnel. D'abord, le véhicule. Le véhicule. Est-ce que le véhicule pris par le gouvernement, qui est celui d'un PLFSSR, un projet de loi de finances rectificatif, est-ce qu'il est le bon? Ça, je pense que sur ce plan-là, je ne vois pas ce qui peut s'y opposer, puisqu'il s'agit de dépenses et de recettes. Bien. Le deuxième point, c'est effectivement, y a-t-il dans ce texte des éléments tels que l'index senior, ou le CDI senior d'ailleurs? Est-ce que ces deux textes-là y ont leur place? Bon, bah écoutez, à ce moment-là, le Conseil constitutionnel, c'est déjà arrivé, retire l'article, il est retiré de la loi, mais ça n'empêche pas toutes les autres mesures, carrière longue, carrière hachée, la retraite à 64 ans, le minimum de retraite, etc., tout ça n'empêche pas. Donc, ça peut amputer de la loi de l'index senior. Il faudra trouver dans la loi travail un moyen d'y pourvoir. On pourra y trouver, je le pense. On va discuter de la valeur travail et du travail demain.
Ce sera transféré vers un autre texte.
Voilà.
Jean, qu'est-ce que ça vous inspire ce serait quand même un revers pour l'exécutif que le Conseil constitutionnel dise « Bon, là, clairement, ça ne s'inscrivait pas dans l'esprit du texte. »
Un revers ou une bouée? C'est la question. Parce que si, effectivement, le Conseil constitutionnel retoque, c'est peut-être la solution qui permette à ce que tout le monde sorte la tête haute de cette crise. Le président de la République aura joué son rôle, la majorité aura joué son rôle, et les oppositions auront joué leur rôle.
C'est dans le cas où le Conseil constitutionnel...
Oui, il vient de vous dire qu'il ne va pas tout retoquer, voilà. A priori.
Alors, ouais. Après, si vous voulez, c'est vrai que dans ce projet de loi, il y a quand même pas mal de cavaliers, des choses qui n'ont rien à y faire. C'est une loi fourre-tout, des cavaliers budgétaires. Vous savez que c'est une pratique qui est courante, mais interdite.
Par exemple.
Je ne sais pas, l'âge de départ, par exemple.
Non, ça, c'est sa place. La loi, elle était faite pour ça.
Toutes les mesures que vous avez prises sur la pénibilité, etc., les mesures budgétaires, ça n'était pas... Si vous voulez, le problème, c'est que le principe même de cette loi, qui est une loi sur le long terme, c'est une réforme des retraites. Donc c'est quelque chose qui engage les finances publiques de manière pluriannuelle. Or, une loi rectificative, son esprit, c'est quoi? C'est de rectifier le budget en cours d'année. C'est pas de prévoir les dépenses et les recettes sur plusieurs années. Donc, vous voyez,
parce que ça impacte le budget cette année, en 2023.
Le Conseil constitutionnel, il juge la loi sur la lettre, mais il la juge aussi dans son esprit. Donc, Gauthier, moi, je sais pas, c'est un peu tangent quand même.
Si l'article 7 venait à être retoqué, là, c'est plus le même texte. On n'est plus du tout dans le même...
C'est un sérieux revers pour
c'est
le...
C'est un sérieux revers, ça n'arrivera pas. On l'a dit pendant
tous les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, on l'a répété, c'est le cœur de cette réforme des retraites, puisque c'est celui qui prévoit de décaler l'âge légal à 64 ans.
Juste un dernier mot. mot pour le référendum d'initiative partagée, s'il était validé par le Conseil, est-ce que ça peut sonner le glas de la réforme? Parce qu'il y a plusieurs étapes.
Déjà, avant il faut plus 180 parlementaires, ça c'est fait. Il faut ensuite 10% du corps électoral, donc c'est-à-dire quasiment 5 millions de Français qui viendraient signer cette demande de référendum. Effectivement, c'est porteur la réforme des retraites, donc c'est pas impossible de trouver 5 millions de Français qui s'opposent à cette réforme des retraites et qui veulent être consultés et soumettre aux voix cette réforme des retraites. Effectivement, si un référendum est organisé contre la volonté du gouvernement et que cette réforme des retraites est retoquée par le peuple, ce qui est fort probable puisque 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme des retraites, là aussi, sérieux revers pour le gouvernement.
On parlera plus de victoire.
On parlera plus de victoire, ça c'est sûr, du côté de l'Élysée, comme ce matin.
Merci à tous les trois de m'avoir rejoint cet après-midi. Dans un instant, Punchline, bien sûr, Laurence Ferrari. Et puis n'oubliez pas, le rendez-vous d'ores et déjà est pris demain, 13h. Vous pourrez suivre en direct sur notre antenne l'interview d'Emmanuel Macron. Et puis nous en parlerons bien évidemment avec Sonia Mabrouk à compter de midi. Je vous retrouve un petit peu plus tard d'ailleurs, tiens, sur l'antenne, avec les mousquetaires de la chaîne. Vous l'aurez compris, ce sera dans Face à l'info. À tout à l'heure.